12. Pendant que Brady colle des étiquettes jaunes, moins 50% sur des vieux DVD de Tarantino, et que Freddy est parti dépanner Madame Vera Wilkins à l'ouest de la ville, c'est son clavier, en fin de compte, qui était rempli de miettes de gâteau, Bill Hodges quitte la O'Brien, la quatre voies qui coupe la ville en deux et donne son nom à Lowtown, et tourne dans le parking adjacent à DeMasio's, Ristorante Italiano. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour deviner que Pete est arrivé le premier. Hodges se gare à côté d'une Chevrolet grise banale à pneus noirs qui crie quasiment « police urbaine » sur tous les toits et descend de sa vieille Toyota, qui elle crie carrément « vieux retraité ». Il pose la main sur le capot de la Chevrolet. Encore chaud. Pete le bat d'une courte longueur. Il s'arrête un instant pour jouir de cette fin de matinée avec son soleil radieux et ses ombres découpées. Regard tourné vers le pont qui enjambe la quatre voies un peu plus bas. Il a été tagué à mort par les gangs, et même s'il est désert à cette heure, midi c'est le moment du petit déjeuner pour les plus jeunes citoyens de Lowtown, il sait que s'il mettait le pied là-dessous, la puanteur aigre de vin et whisky bon marché le saisirait. Des tessons de bouteilles brisées craqueraient sous ses pas. Dans le caniveau, d'autres bouteilles, le genre petite en verre marron. Mais tout ça, c'est plus son problème. Et puis, les profondeurs du pont sont désertes, et Pete l'attend. Hodges pousse la porte du restaurant, et quand Elaine, au comptoir, l'accueille avec le sourire, et en l'appelant par son nom, bien qu'il ne soit pas venu depuis des mois, peut-être même un an, il est agréablement surpris. Bien sûr, Pete est installé sur l'une des banquettes, lui faisant déjà signe de la main, et c'est sûrement lui qui lui a rafraîchi la mémoire, comme disent les avocats. Hodges lève la main en retour, et quand il arrive à hauteur de la banquette, Pete est déjà debout, bras grands ouverts, pour une étreinte fraternelle. Il se tape dans le dos le nombre de fois requis, puis Pete lui dit qu'il a bonne mine. « Tu connais les trois âges de l'homme ?» demande Hodges. Pete secoue la tête, arborant un large sourire. « L'enfance, l'âge adulte, et t'as une putain de bonne mine. » Pete éclate de rire et demande à Hodges ce que dit une blonde quand elle ouvre un paquet de Cheerios. Hodges dit qu'il ne sait pas. Pete ouvre de grands yeux écarquillés et dit « Oh, regarde toutes ces mignonnes petites graines de donuts !» À son tour, comme le veut la coutume, Hodges éclate de rire, bien qu'il ait déjà entendu des blagues de blondes plus spirituelles, et une fois débarrassé des civilités, il s'assoit. Un serveur approche. Pas de serveuse chez DeMasio's, seulement des vieux messieurs en tablier immaculé, noués bien haut autour de leurs étroites poitrines de poulet. Et Pete commande un pichet de bière. De la Bud Light, pas de l'Ivory Special. Quand elle arrive, Pete lève son verre. À toi, Billy, et à la vie après le travail. Merci. Ils trinquent et boivent. Pete demande des nouvelles d'Ali et Hodges des enfants de Pete. Leurs épouses, toutes deux de la catégorie des ex, sont évoquées, comme pour se prouver mutuellement et à eux-mêmes qu'ils n'ont pas peur d'en parler, puis banni de la conversation. La commande est enregistrée. Quand les plats arrivent, ils ont eu le temps de passer en revue les petits-enfants de Pete et d'analyser les chances de victoire des Indians de Cleveland, qui se trouve être l'équipe de ligue majeure la plus proche. Pete a pris des raviolis, Hodges des spaghettis à l'ail et à l'huile d'olive, comme toujours quand il vient ici. La moitié de ses bombes caloriques ingurgitées, Pete sort un bout de papier de sa poche de chemise et, non sans cérémonie, le pose à côté de son assiette. « C'est quoi ?» demande Hodges. « La preuve que mon sixième sens de détective est toujours aussi aigu. Je t'ai pas vu depuis cette soirée de débauche au Raintree Inn. Ma gueule de bois a duré trois jours au passage. Et je t'ai parlé, quoi, deux, trois fois. Et d'un coup, bim, tu veux qu'on mange ensemble. Est-ce que ça m'étonne ? Non. Est-ce que je flaire une intention cachée ? Oui. » Alors, voyons un peu si j'ai raison. Hodges hausse les épaules. Tu sais ce qu'on dit, le remède à l'ennui, c'est la curiosité. Mais la curiosité, elle, est sans remède. Pete Huntley sourit largement. Et quand Hodges se penche pour attraper le bout de papier, il pose la main dessus. Non, 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 il faut que tu le dises. Fais pas tant timide, Kermit. Hodges soupire et énumère quatre dossiers en comptant sur ses doigts. Quand il a fini, Pete pousse le bout de papier vers lui. Hodges l'ouvre et lit. 1. Davis, 2. Le violeur du parc. 3. Les prêteurs sur gage. 4. Le tueur à la Mercedes. Hodges fait mine d'être vaincu. « Vous m'avez eu, shérif, mais ne te sens pas obligé de me dire quoi que ce soit. » Pete redevient sérieux. « Bon sang. Si t'étais pas un minimum curieux de savoir ce que sont devenus les dossiers non classés depuis que t'as jeté l'éponge, je serais déçu. Je me faisais un peu de soucis pour toi. J'ai pas envie de fourrer mon nez dans ce qui me regarde plus. » Hodges est légèrement stupéfait de la facilité avec laquelle cet énorme bobard est sorti. « Ton nez de Pinocchio ?»« Non. Vraiment, tout ce que je demande, c'est une petite mise à jour. »« Ravi de pouvoir aider. Alors, Donald Davis, pour commencer. Tu connais le scénario ? Il foire tous les business qu'il monte. Le dernier en date étant les voitures de collection Davis. Le type est tellement tout le temps sous l'eau qu'il devrait s'appeler Capitaine Nemo. Deux ou trois pépettes sous le bras. »« Trois, quand je suis parti, » dit Hodges en retournant à ses pattes. Il n'est pas venu ici pour entendre parler de Donald Davis ou du violeur du parc, ni même du gars qui braque des prêteurs sur gage et des magasins d'alcool depuis 4 ans. Tout ça, c'est du camouflage. Mais ça l'intéresse quand même. Sa femme en a assez des dettes et des pépettes. Elle est en train de s'occuper du divorce quand la voilà qui disparaît. Une histoire vieille comme le monde. Il déclare sa disparition et sa faillite le même jour, donne quelques interviews télé et verse un seau de larmes de crocodile. On sait qu'il l'a tué, mais sans le corps. Il hausse les épaules. T'étais là pour les entrevues avec Diana Ladinde. Il parle du procureur. Toujours pas possible de la convaincre de l'inculper. Pas de corps, pas de chef d'inculpation. Les flics de Modesto n'avaient aucun doute sur la culpabilité de Scott Peterson, mais ils n'ont pu l'inculper qu'une fois les corps de sa femme et de son fils retrouvés. Tu le sais aussi bien que moi. Hodges le sait, en effet. Lui et Pete ont beaucoup discuté de l'affaire Scott et Lacey Peterson pendant leur enquête sur la disparition de Sheila Davis. Mais devine quoi ? On a trouvé du sang dans leur chalet d'été près du lac. Pete s'interrompt pour les faits, puis lâche la bombe. Celui de Madame. Hodges se penche en avant, oubliant temporairement son assiette.
Quand ça ?
Il y a un mois.
Et tu m'as rien dit ?
Je te le dis maintenant, parce que tu me le demandes. Les recherches continuent. La police de Victor County est en charge de l'affaire.
Est-ce que quelqu'un l'a vu là-bas avant la disparition de Sheila ?
Oh que oui, deux gamins. Davis dit qu'il ramassait des champignons. Pourquoi pas des asperges sauvages ?
Tu parles d'un Newell Gibbons à la noix.
Quand ils trouveront le corps, s'ils le trouvent, ce bon vieux Donnie Davis pourra arrêter d'attendre que les 7 ans requis soient écoulés pour qu'elle soit déclarée morte et toucher l'assurance.
Pete est tout sourire.
Pense à tout le temps qu'il gagnera.
Et le violeur du parc ?
C'est qu'une question de temps. On sait qu'il est blanc, on sait qu'il a la vingtaine, et on sait qu'il a un léger penchant pour les chattes de bourgeoises bien entretenues.
Vous avez sorti les appâts ? Tu sais qu'il sort quand il fait beau.
C'est ce qu'on fait. Et on va la voir.
Ce serait chouette si vous pouviez le coincer avant qu'il viole une autre quinquagénaire à la sortie du travail.
On fait de notre mieux.
Pete a l'air légèrement contrarié.
Et quand le serveur réplique pour leur demander si tout se passe bien, il le renvoie d'un geste de la main.
« Je sais, » dit Hodges, le ton rassurant. « Le braqueur des prêteurs sur gage ?»
Pete retrouve le sourire. « Young Aaron Jefferson. »«
Hein ?»
C'est son nom. Il se faisait appeler YA quand il jouait dans l'équipe de football de City High. Tu sais, comme YA Tittle. Sauf que sa copine, aussi la mère de son gamin de 3 ans, nous a dit qu'il appelait Tittle Tété. Quand on lui a demandé s'il plaisantait ou s'il était sérieux, elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée.
Encore une histoire vieille comme le monde, si vieille qu'elle pourrait être tirée de la Bible. D'ailleurs, peut-être que la Bible en contient une version quelconque. Laisse-moi deviner. Il enchaîne les braquages.
14 à son actif, avec son fusil à canoncier, comme Omar dans The Wire.
Et avec sa chance de cocu, il s'en sort à tous les coups. Puis il trompe la gosse qui lui sert de copine. Ça la rend furax et elle le balance.
Pete pointe du doigt son vieux coéquipier. En plein dans le mille. Et la prochaine fois que Young Aaron s'amène chez un prêteur sur gage ou à un comptoir d'encaissement de chèques, on aura de l'avance sur lui. Et alors, la nuit nous appartient, mon pote.
Pourquoi attendre ?
Encore à cause de la proc, dit Pete.
Si Diana la dinde te demande de lui cuisiner un steak à point et que tu te pointes avec un steak saignant, elle le renvoie en cuisine illico. Mais vous le tenez. Je te parie de nouveaux pneus à bande blanche que YA passe l'été à la prison du comté et Noël à la prison fédérale. Ça prendra peut-être plus de temps pour Davis et le violeur du parc, mais on les aura. Tu veux un dessert? Non. Oui. Au serveur. Vous faites toujours le baba au rhum, celui au chocolat noir? Le serveur prend l'air offensé.
Oui, monsieur, évidemment.
Je vais en prendre une part, alors. Et un café. Pete? Non, ça ira. Je vais terminer la bière. Sur quoi, il se sert un dernier verre. T'es sûr que c'est une bonne idée, le dessert, Billy? On dirait que t'as pris un peu de poids depuis la dernière fois, non? C'est vrai. Depuis qu'il est à la retraite, Hodges ne se prive pas. Mais c'est seulement depuis quelques jours qu'il apprécie vraiment ce qu'il mange. Je pense me mettre aux Weight Watchers. Pete acquiesce. C'est vrai? Et moi, je vais me faire moine? Va te faire foutre. Et le tueur à la Mercedes? On interroge toujours le voisinage de Trelawney. Isabelle y est, d'ailleurs. Mais je serais étonné qu'elle ou un autre découvre quoi que ce soit de nouveau. Il n'y a pas une porte à laquelle on n'a pas déjà frappé une demi-douzaine de fois. Le type a volé le traîneau de luxe de Trelawney. Il est sorti du brouillard, il a fait son business, puis il est reparti dans le brouillard et a abandonné la caisse. Point barre. Oublie mon chieur YA, TT. C'est le mec à la Mercedes qui a une vraie chance de cocu. S'il avait fait sa petite cascade, ne serait-ce qu'une heure plus tard, il y aurait eu des flics partout, pour contrôler la foule. Je sais. Tu crois qu'il le savait, lui? Hodges hausse les épaules pour montrer son incertitude. Si lui et Mr. Mercedes engagent la conversation sur le site du parapluie bleu, peut-être qu'il lui demandera. Ce connard d'assassin aurait pu perdre le contrôle de la voiture et se foutre en l'air, mais non. Voiture allemande, les meilleures d'après Isabelle. Quelqu'un aurait pu sauter sur le capot et lui boucher la vue, mais non. L'un des plots en acier auquel était accroché le ruban jaune aurait pu se coincer sous la voiture, mais ça n'est pas arrivé non plus. Et quand il a garé la bagnole derrière l'entrepôt, quelqu'un aurait pu le voir sortir sans son masque, mais non, il n'y avait personne.
Il était 5h20 du matin, fait remarquer Hodges. Et même à midi, cette zone aurait été quasiment aussi déserte.
Ouais, la récession, maugrait Pete. Je sais, je sais. J'imagine que la moitié des gens qui bossaient dans ces entrepôts étaient au City Center ce jour-là, à attendre couvre cette putain de foire à l'emploi. Un peu d'ironie, c'est bon pour la circulation sanguine?
Rien de nouveau, donc.
Le calme plat.
Le dessert de Hodges arrive. Il sent bon et est encore meilleur. Le serveur parti, Pete se penche vers Hodges.
Mon plus grand cauchemar, c'est qu'il recommence. Qu'une autre brume nous arrive du lac et qu'il recommence.
Il dit qu'il ne le fera pas, pense Hodges en s'enfournant une grosse cuillerée de délicieux gâteau dans la bouche. Il dit qu'il n'en ressent absolument aucun besoin, qu'une fois a suffi.
Ça ou autre chose, dit-il.
On s'est disputé avec ma fille en mars. Méchamment disputé. Je ne l'ai pas vue de tout le mois d'avril. Elle a sauté tous ses week-ends.
Ah bon?
Ouais. Elle voulait aller à une compétition de pom-pom girl. Bring the Funk, je crois que ça s'appelait. Pratiquement tous les lycées de l'État y participaient.
Tu te souviens? Candy a toujours été une pom-pom girl acharnée.
Ouais, bien sûr, répond Hodges.
Non, il ne s'en souvenait pas. Quand elle avait 4 ou 5 ans, on ne pouvait pas lui faire enlever sa mini-jupe plissée. Deux mamans avaient prévu d'accompagner les filles. Et j'ai dit non à Candy. Tu sais pourquoi?
Bien sûr qu'il sait pourquoi.
Parce que ça se passait au City Center, voilà pourquoi. Je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer la centaine de petites midinettes en mini-jupe et leur mère agglutinées devant les portes fermées, au crépuscule cette fois. Mais tu sais que la brume se lève aussi le soir. Je voyais cet enculé leur foncer dessus avec une autre Mercedes volée, ou un Hummer, pourquoi pas. Et les gamines et leurs mamans restaient plantées là comme des biches prises dans le pinceau des phares. Alors j'ai dit non. Si tu l'avais entendu me hurler dessus, Billy. Mais j'ai quand même dit non. Elle m'a pas adressé la parole pendant un mois. Et elle me parlerait toujours pas si Maureen l'y avait pas emmenée. J'ai dit un mot qu'il n'y avait pas moyen, qu'elle avait pas intérêt à le faire. Et elle m'a dit, c'est pour ça que j'ai divorcé, Pete. Parce que j'en ai eu assez de t'entendre dire « pas moyen » et « t'as pas intérêt ». Et bien sûr, il ne s'est rien passé. Il termine sa bière et se penche à nouveau vers Hodges. J'espère qu'il y aura plein de monde avec moi quand on le chopera. Si je le coince tout seul, je suis capable de le tuer rien que pour m'avoir mis ma fille à dos.
Alors pourquoi espérer qu'il y ait plein de monde ?
Pete réfléchit à ce que Hodges vient de dire, puis sourit lentement.
C'est pas faux.
Ça t'arrive de repenser à Mrs. Trelawney ?
Hodges pose la question de manière détachée. Mais il a beaucoup repensé à Olivia Trelawney depuis que cette lettre a atterri sur le sol de sa cuisine. Et même avant ça. À plusieurs reprises au cours de cette période de retraite grise, il a même rêvé d'elle. Ce long visage. Ce visage de chien battu. Le genre de visage qui semble dire « Personne ne me comprend. Et le monde entier est contre moi. » Tout cet argent est malgré tout incapable de s'estimer heureuse, ne serait-ce que de pouvoir jouir d'une liberté financière totale. Ça faisait des années que Mrs. T n'avait plus à tenir ses comptes ou à craindre d'entendre sur son répondeur des messages d'agents de recouvrement. Mais elle ne savait faire que se plaindre, tenant une interminable liste de coiffeurs incompétents et de serveurs impolis. Mrs. Trelawney et ses robes à encolure bateau informe, les 10 bateaux semblant toujours tanguer quelque peu sur bâbord ou sur tribord. Ses yeux humides, semblant toujours au bord des larmes. Personne ne l'avait aimée, la Trelawney. Pas plus qu'Hermit William Hodges, inspecteur de première division, que les autres. Et personne n'avait été surpris quand elle s'était suicidée. Pas même l'inspecteur Hodges. La mort de 8 personnes, sans parler du nombre bien supérieur de blessés, devait peser lourd sur une conscience.
Comment ça, repenser à elle ? Demande Pete. Je veux dire, peut-être qu'elle disait la vérité après tout, à propos des clés.
Pete lève les sourcils. Elle pensait dire la vérité. Tu le sais aussi bien que moi. Elle s'en était tellement persuadée elle-même qu'elle aurait pu passer au détecteur de mensonges sans problème.
C'est vrai.
Olivia Trelawney n'avait représenté une surprise pour personne. Dieu sait qu'ils en avaient vu des gens comme elle. Les criminels de carrière se comportaient en coupables, même quand ils n'avaient pas commis le ou les crimes pour lesquels on les interrogeait, parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient coupables de quelque chose. Les citoyens honnêtes, eux, ne pouvaient tout simplement pas y croire. Et lorsque l'un d'entre eux se faisait interroger avant la mise en accusation, c'était rarement, Hodges le sait, pour un crime à main armée. Non. Ça avait généralement à voir avec une voiture. Je croyais que c'était un chien que j'avais écrasé, ils vont te dire. Et peu importe ce qu'ils auront vu dans leur rétroviseur après l'horrible double choc, ils y croiront, dur comme fer. Juste un chien.
Je me pose quand même la question, dit Hodges, espérant avoir l'air pensif plutôt qu'insistant.
Bill, t'as vu ce que j'ai vu. Et si jamais t'as besoin d'une remise à niveau, passe voir les photos quand tu veux.
J'imagine que t'as raison.
Les premières notes de « Une nuit sur le Mont Chauve » retentissent en provenance de la veste en tweed « Men's Warehouse » de Pete. Il en sort son téléphone portable, regarde le numéro et dit « Faut que je réponde. » Hodges lui fait un signe de la main.
« Je t'en prie. »
« Allô ?» Pete écoute. Ses yeux s'agrandissent. Il se lève si brusquement que la table se renverse presque.
Quoi ?
Les gens se sont arrêtés de manger pour le regarder. Hodges l'observe avec intérêt.
Ouais, j'arrive tout de suite.
Quoi ?
Ok, vas-y, m'attends pas.
Il raccroche et se rassoit. Tout d'un coup, tous ses sens sont en éveil, et à cet instant précis, Hodges l'envie amèrement.
Je devrais manger avec toi plus souvent, Billy. T'es mon porte-bonheur, tu l'as toujours été. On en parle et ça arrive.
Qu'est-ce qui arrive ?
Pensant, c'est Mr. Mercedes. Et ce qu'il se dit ensuite est à la fois ridicule et pathétique.
Il était censé être à moi.
C'était Izzy. Elle vient de recevoir un appel d'un lieutenant de police de Victory County. Un garde-chasse a repéré des ossements dans une carrière il y a à peine une heure. La carrière se trouve à moins de 3 kilomètres de la maison de vacances de Donny Davis. Et devine quoi ?
Il semblerait que les ossements portent des lambeaux de robe. Il brandit sa main par-dessus la table.
« Tapement 5, mec !»
Pete range son téléphone dans la poche déformée de son veston et en ressort son porte-monnaie.
Hodges secoue la tête,
ne se faisant absolument aucune illusion sur ce qu'il ressent. Du soulagement. Un énorme soulagement.
« Non, c'est moi qui paye. Tu dois pas retrouver Isabelle, toi ?»«
Si. » »«
Alors file. » »«
Ok. Merci pour le repas. » »«
Une dernière chose. Du nouveau à propos de Turnpike Joe ?»«
Police d'État, ça, » dit Pete.
« Et les pédéraux, maintenant ?»«
Je leur laisse. D'après ce que je sais, ils n'ont rien. Ils attendent qu'ils recommencent et comptent sur un coup de chance. »
Il regarde sa montre. « Vas-y, vas-y. »
Pete commence à partir, s'arrête, fait demi-tour et dépose un gros baiser sur le front de Hodges.
« C'était chouette de te voir, mon chéri. »«
Dégage, » lui dit Hodges. « Les gens vont croire qu'on est ensemble. »
Pete fout le camp, avec un grand sourire sur la figure. Et Hodges repense au petit surnom qu'ils avaient l'habitude de se donner autrefois. « Les chiens du ciel. » Il se demande si son flair à lui est toujours aussi aiguisé aujourd'hui.